28 avril 1975. Bien que la plupart des forces militaires américaines soient parties depuis un bon moment, ils sont encore un bon millier à Saïgon, la capitale du Vietnam du Sud. Des militaires, du personnel diplomatique, quelques civils et des journalistes. Mais désormais, il est temps de partir. Il faut déménager, ou plus exactement, se tirer. Des dizaines de milliers d'habitants abandonnent tout ce qu'ils ont avant l'arrivée de l'ennemi dans la ville. Les ventilateurs sont soudainement silencieux. Il y a partout de grands cimetières de frigidaires, des nécropoles de climatiseurs et des pyramides de la vaisselle. Les voitures sont en panne en bordure de route. Tout est à l'arrêt. La guerre est finie. Perdue depuis longtemps par les Américains et désormais aussi par ceux qu'ils sont venus soutenir pour faire barrage au communisme. Tout est mort en ville. Mais à proximité de l'aéroport et du port, c'est la ruée vers les derniers bateaux, les derniers hélicoptères, les ultimes avions américains. Les pilotes trient les passagers, pistolets au poing. C'est la cohue. À travers les hublots, on peut voir les foules courir après les avions. Des scooters et des jeeps roulent à tombeau ouvert vers ce salut de la dernière chance. On s'accroche aux roues, à l'échelle. Un ou deux chanceux sont remontés par la peau du dos pour le pays. C'est bientôt la fin d'un cauchemar. Deux guerres en 30 ans et plus de 5 millions de morts. Il est 15h, ce 28 avril 1975. Saïgon est sur le point de tomber face à l'avancée inéluctable de l'armée du Nord-Vietnam. 15h, leur hache de mon histoire. Histoire d'une guerre bien trop longue, qui se termine subitement. Une fin trop rapide pour les perdants, mais aussi, étonnamment, pour les vainqueurs. Personne n'est prêt en cette fin avril 1975. Les Sud-Vietnamiens ne s'attendent pas à devoir s'enfuir de leur capitale en quelques heures. Et leur allié américain n'a pas prévu de devoir quitter le pays dans la désorganisation la plus totale. Les vainqueurs, quant à eux, doivent gérer en catastrophe leur prise de pouvoir. Bref, c'est une guerre qui prend fin de manière un peu surprenante, dans une improvisation complète. Une fin dont les images incroyables de l'évacuation de Saïgon font le tour du monde. En cette fin avril, la chaleur s'est installée, accentuant la sensation d'étouffement caractéristique de cette période de l'année. Les températures diurnes dépassent souvent les 30 degrés Celsius, créant des journées écrasantes, pendant lesquelles l'humidité pèse lourdement sur la ville. Les soirées apportent un peu de soulagement, mais le climat tropical persistant crée un environnement stressant. Les signes de l'invasion des forces ennemies se mêlent à une atmosphère de nervosité et d'anticipation. Les rumeurs de l'avancée des troupes et la perspective de la chute prochaine de la ville planent comme une ombre sur chaque coin de rue. La population ressent la pression croissante de la guerre qui se rapproche, ce qui se manifeste par des préparatifs frénétiques, des débats angoissés et une ambiance où la tension est de plus en plus palpable. Comme la plupart des habitants de la capitale, Thérèse Nguyen, fonctionnaire de 37 ans, et son mari Vincent, courtier en assurance, s'efforcent de maintenir une certaine normalité dans leur foyer, malgré les pressions croissantes liées à la guerre. Thérèse et Vincent sont à la tête d'une tribu de 8 enfants. Comme tous les Saïgonais, ils doivent faire face aux défis posés par la réalité turbulente de l'époque. L'inquiétude est de mise et ne fait que grandir chaque jour qui passe. Si les forces communistes prennent possession de la ville, quel va être leur sort? Rester peut être très risqué. Et puis, beaucoup ne désirent tout simplement pas envisager leur avenir et celui de leurs enfants dans un pays sous régime communiste. Si rester ne semble pas une option en cas de victoire des forces ennemies, tout quitter vers l'inconnu est loin d'être évident. En 1975, l'Asie du Sud-Est est en état de guerre depuis 3 décennies. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. Les forces alliées chassent les Japonais de l'Indochine, alors sous domination française. Les nationalistes, dirigés par Ho Chi Minh et inspirés par les idéaux d'indépendance et de socialisme, proclament la République démocratique du Vietnam en septembre 1945. Précisons que le terme « Indochine » fait référence à la Fédération des colonies françaises en Asie du Sud-Est. Une fédération qui regroupe le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Très vite, les tensions entre les nationalistes et les autorités françaises dégénèrent en conflit armé. C'est la fameuse guerre d'Indochine. Par ce conflit, la France cherche à rétablir son contrôle sur l'Indochine et à maintenir l'empire colonial français en Asie du Sud-Est. Et c'est raté. 8 longues années plus tard, les troupes françaises sont défaites lors de la célèbre bataille de Dien Bien Phu. Est-ce pour autant la paix dans la région? Pas vraiment, non, car une autre guerre est en gestation. Le Vietnam est coupé en deux. Le nord communiste est dirigé par Ho Chi Minh. Le sud, non communiste, est soutenu par les États-Unis. Des élections censées réunifier le pays sont prévues dans les deux parties. Le scrutin n'aura jamais lieu, car les Américains craignent une victoire probable des forces communistes. Ils prennent le relais de l'armée française en soutenant la partie sud du pays, déclenchant ainsi une guerre qui va durer 2 décennies. Pourtant, 20 années et une longue guerre plus tard, cette victoire des communistes sera bel et bien actée. Mais n'allons pas trop vite. La famille Nguyen symbolise parfaitement ce que des dizaines de milliers de familles endurent en cette période particulièrement troublée. Thérèse et Vincent discutent souvent des développements politiques et des rumeurs de plus en plus insistantes quant à la chute imminente de Saïgon. Ils envisagent tous les scénarios. Mais il devient clair que rester à la capitale ne fait désormais plus partie des plans d'avenir pour leur famille. Pour ne pas trop alerter leurs enfants, ils commencent discrètement à préparer des provisions en vue d'une probable évacuation prochaine. Depuis le début de la guerre en 1955, les Sud-Vietnamiens et leur allié américain sont pris entre deux feux. Les forces communistes du Nord, bien sûr, mais aussi une guérilla communiste interne menée par le Viet Cong. Une guérilla que les États-Unis ne parviendront jamais à éliminer, malgré des opérations massives. Les tactiques du Viet Cong incluent des attaques surprises, des embuscades et l'utilisation de tunnels complexes pour se déplacer et se cacher. 10 ans après le début du conflit, sous le président Lyndon Johnson, les États-Unis intensifient leur engagement militaire avec l'envoi massif de troupes. On craint que la victoire communiste ne mène à la propagation d'un tel régime dans la région. Malgré les forces militaires et humaines investies dans ce conflit, l'ennemi reste debout. Pire encore, en 1968, les ennemis de l'Amérique lancent l'offensive du Tet. Une série d'attaques surprises à travers le Sud qui a un impact psychologique important aux États-Unis et qui sape définitivement la confiance du public dans la gestion de la guerre. Les forces communistes ont choisi le Tet pour surprendre l'ennemi. Il s'agit du nouvel an lunaire vietnamien, une période traditionnellement marquée par une trêve informelle des combats. Las de ces attaques qui déciment le peuple américain, les États-Unis réduisent leur présence militaire tout en intensifiant les bombardements au Laos et au Cambodge pour cibler les bases communistes. Avec la conscience que ce conflit est sans fin, en 1973, les accords de Paris sont signés, marquant le retrait officiel des troupes américaines. Après ces accords, les deux Vietnam restent seuls face à face. Et sans l'appui des Américains, il est clair que personne imagine une fin victorieuse des troupes sud-vietnamiennes. La fin du mois d'avril 1975 voit les événements se précipiter. Après le retrait des soldats de l'oncle Sam, les forces communistes intensifient leur attaque au sud et progressent partout. Les rues de Saïgon sont d'ailleurs le reflet des événements qui secouent de plus en plus le sud du pays. On y trouve un mélange chaotique de scènes ordinaires de la vie quotidienne et d'activités exacerbées par l'urgence. Sur les marchés, les étals débordent de biens de première nécessité. Les habitants s'approvisionnent en prévision de l'incertitude à venir. Les rues sont encombrées de véhicules, de passants pressés et de vendeurs ambulants, créant un tableau contrasté de la vie quotidienne face à la réalité imminente de la guerre. Les points de contrôle militaire, érigés à divers endroits de la ville, ajoutent à l'atmosphère tendue. les civils font face à des vérifications de plus en plus fréquentes, renforçant le sentiment d'insécurité. Les rumeurs circulent rapidement, alimentant une atmosphère de méfiance généralisée. Pour la famille Nguyen, les soirées sont l'occasion de se rassembler autour d'un repas. La table est un lieu de partage, de rire et parfois de discussions plus sérieuses sur l'avenir incertain. Les aînés expriment leurs préoccupations, mais Thérèse et Vincent cherchent à les rassurer, en mettant l'accent sur l'importance de rester unis. Les nuits, cependant, sont souvent marquées par l'insomnie. Thérèse et Vincent se retrouvent à discuter en chuchotant, partageant leurs inquiétudes quant à la sécurité de la famille. Ils envisagent tous les scénarios qui s'offrent à eux si la situation venait subitement à s'aggraver. Le bruit assourdissant des explosions lointaines et le grondement des avions en survol créent un fond sonore constant. Ces sons, autrefois familiers aux oreilles des résidents de Saïgon, prennent désormais une signification différente, annonçant l'approche inexorable de la guerre aux portes de Saïgon. Des scènes poignantes d'adieu et de réunions déchirantes se déroulent dans les quartiers de la ville. Les familles se serrent dans des étreintes chargées d'émotions, conscientes que ces moments pourraient être les derniers passés ensemble. Mais maintenant, c'est décidé. Il faut fuir. Thérèse et Vincent ont pris leur décision. Mais quitter le pays n'est pas simple. Il faut choisir le bon moment et puis surtout, trouver le moyen le plus sûr pour embarquer tout ce petit monde dans un voyage aux nombreuses inconnues. Alors, faut-il partir tout de suite ? Faut-il partir dans quelques jours et puis surtout comment ? Vincent et Thérèse Nguyen n'en dorment plus. Ils échafaudent des plans pour quitter Saïgon. Mais ont-ils pris la bonne décision ? 7 avril 1975. L'offensive des forces révolutionnaires s'intensifie sur la base aérienne de Bien Noa, à une vingtaine de kilomètres au nord de Saïgon. Saïgon va tomber, ça ne fait plus aucun doute. Une dépêche de l'AFP informe qu'un rapport secret présenté à la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain affirme que la situation militaire est sans espoir et que les troupes nord-vietnamiennes et Vietcong peuvent investir la capitale dès les premiers jours de mai. À Washington, on envisage même l'idée de créer un corridor depuis Saïgon jusqu'à la mer par lequel l'évacuation de milliers de Vietnamiens pourrait s'effectuer. Pour la première fois, des véhicules munis de haut-parleurs sillonnent la ville pour avertir la population des mesures de précaution à prendre en cas d'attaque à la roquette. On peut en effet entendre tonner les canons de 130 mm et d'une portée de 27 km. La brise chaude de Saïgon porte désormais les prémices d'une débâcle annoncée. La famille Nguyen a longtemps pensé échapper à cet exil forcé qui lui tend désormais les bras. La vie était, somme toute, relativement paisible jusqu'à ce terrible mois d'avril, ces jours où tout bascule. Les nouvelles de l'avancée inexorable des troupes nord-vietnamiennes se propagent. Le grand départ vers l'inconnu approche. 21 avril, 1975. Le dernier verrou avant Saïgon saute. C'est la chute de Xuan Loc, position stratégique située à 60 km de la capitale. Un déluge d'artillerie a précédé l'assaut. 2000 obus se sont abattus sur la ville. La base aérienne de Bien Noa, dernier écran de résistance avant le déferlement sur Saïgon, a été pilonnée. Les Sud-Vietnamiens et les étrangers cherchent à être évacués. Des scènes de panique et de confusion se déroulent au nord de la capitale. La radio du Front de Libération du Sud-Vietnam, captée à Bangkok, émet des appels aux habitants, les invitant à ne pas quitter le pays, à ne pas craindre pour leur sécurité. Les messages que nombre d'entre eux ignorent, tant les risques de représailles font craindre le pire, pour toutes celles et ceux qui devront vivre sous le régime du vainqueur. Ce 21 avril 1975, à 20h36, après 53 minutes de discours, le président Van Thieu annonce sa démission à la télévision pour ouvrir la voie à des négociations et parce qu'il ne veut pas devenir un bouc émissaire. Mais c'est bien trop tard. L'ennemi est désormais aux portes de la ville. La marge de manœuvre pour son successeur est quasi nulle. Thieu se retire après 10 années de pouvoir solitaire. Une page de l'histoire de ce pays millénaire se tourne. C'est l'incertitude politique. Et sur le plan militaire, la situation est précaire. Les communistes contrôlent les 3/4 du territoire et se préparent à lancer l'offensive contre Saïgon. L'inquiétude est totale dans la population, d'autant que le discours de son président démissionnaire n'a rien de très rassurant. Il déclare ceci. Notre armée, manquant d'essence, de munitions, de matériel, sans alliés et sans appui, a résisté autant qu'elle le pouvait aux armées communistes. Mais combien de temps la puissante armée américaine aurait-elle tenu face à cet ennemi, qu'elle n'a jamais pu vaincre alors qu'il était beaucoup plus faible? Un tel aveu d'impuissance démontre, si c'était encore nécessaire, que cette passation de pouvoir est surtout une abdication. Le lendemain de la démission du président, le secrétaire américain à la défense, James Schlesinger, déclare que les communistes veulent peut-être célébrer l'anniversaire de la naissance d'Ho Chi Minh le 15 mai à Saïgon. Si l'on tient compte de cette hypothèse, il reste 3 semaines pour permettre à d'éventuelles négociations d'aboutir et surtout pour procéder à l'évacuation totale des ressortissants américains. La priorité du Pentagone est bien sûr l'évacuation de ces derniers accompagnés de leurs familles, mais aussi la destruction de documents qu'ils ne veulent pas laisser à l'ennemi. Une évacuation qui se poursuit activement, mais pour ce qui est du timing, les Américains se trompent lourdement. Ils ne disposeront pas de 3 semaines, mais d'à peine 8 jours avant la chute de Saïgon, que nombre d'entre eux devront fuir en pleine débandade, dans l'improvisation la plus totale, une chute rapide qu'ils ne voient pas venir. 4 jours seulement après la démission du président, le bruit sourd des canons résonne au loin, annonçant l'inévitable. Thérèse et Vincent Nguyen se concertent, conscients que le départ est imminent. L'heure n'est plus à tergiverser sur le bien fondé de quitter Saïgon et, pour tout dire, de laisser leur pays natal derrière eux, mais bien de choisir le meilleur moment pour partir. Bien décidés à quitter la ville, tant qu'il est encore temps, ils n'ont pas véritablement de plan précis. Cette plongée vers l'inconnu les stresse bien plus qu'ils ne l'auraient imaginé. C'est alors qu'un ami policier, informé des dernières nouvelles, les appelle en catastrophe. Son avertissement résonne comme un coup de tonnerre dans leur quotidien. Faut partir maintenant. Un dernier bateau s'apprête à quitter le port avec des réfugiés à bord. Alors cette fois, ça y est. Les Nguyen, pris dans la tourmente de l'urgence, prennent la décision cruciale de fuir sans délai. L'angoisse grandit au sein de la famille alors qu'ils préparent précipitamment leurs affaires, emportant seulement l'essentiel. Les enfants, confus et inquiets, sont rassemblés alors que Thérèse et Vincent s'efforcent de maintenir un semblant de calme. Le 27 avril 1975, les pleins pouvoirs sont remis au général Dong Van Min. Il doit sauver ce qui peut encore l'être et négocier la paix. Mais il est évidemment déjà trop tard pour espérer négocier, beaucoup trop tard. Le lendemain, le coup d'envoi de l'accélération des évacuations de tous les Américains est lancé. Plus personne ne se fait d'illusions sur l'issue de ce conflit qui n'a que trop duré. Ce qui est difficile à comprendre, c'est le temps qu'il faut aux Américains pour parvenir à la conclusion que la ville est sur le point de tomber d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Le 29 avril, c'est la cohue totale. À l'ambassade des États-Unis, on brûle en toute hâte les dernières archives. Du toit même de l'ambassade, des hélicoptères décollent et effectuent d'incessantes rotations pour transporter à 100 kilomètres de là, sur des navires de guerre qui les attendent au large, le millier d'Américains encore à Saïgon. Beaucoup cherchent à partir à tout prix avant l'arrivée des communistes. L'ambassade américaine est quasi prise d'assaut. La foule escalade le mur d'enceinte pour trouver asile et tenter de fuir par les airs. Ce sont les dernières évacuations depuis le toit de la représentation diplomatique des États-Unis. Les civils essaient de passer le haut mur de l'ambassade, espérant atteindre les hélicoptères d'évacuation pour gagner l'étranger. Les rotations des hélicoptères s'enchaînent sans discontinuité pour emporter les derniers privilégiés à bord des porte-avions de la 7e flotte. Les images de véritables grappes humaines accrochées aux hélicoptères font le tour du monde. Pour Thérèse et Vincent Nguyen, partir en bateau ne les enthousiasme pas vraiment. Ça semble très risqué. Mais les images qu'ils découvrent à la télévision sont terribles. Comme beaucoup, ils ont envisagé un moment se rendre à l'ambassade américaine, mais les scènes de cette foule violemment repoussée en haut des murs d'enceinte ont refroidi leurs dernières illusions de quitter Saïgon par les airs. Les autorités politiques et militaires désertent aussi la ville. Des pillages se multiplient dans les résidences et les logements abandonnés par les Américains qui ont déjà quitté Saïgon. Un peu après 11 heures, le 29 avril 1975, près de la route de Tay Ninh, qui longe l'enceinte du terrain de Tan Son Nhut, un hélicoptère trop chargé décolle lourdement. Une roquette le touche de plein fouet. L'appareil explose, libérant un déluge de flammes. Route de Bien Hoa. Le pont sur la rivière de Saïgon n'est plus qu'un lointain souvenir depuis longtemps. On y croise une foule innombrable, affamée et misérable, qui grouille à la recherche de tout ce qu'elle peut piller. Des milliers de femmes, d'adolescents et d'enfants passent par la rivière en piétinant les cadavres des commandos nordistes abattus la veille. Il faut plonger dans la vase. Un enfant de 6 ans, couvert de boue grise, le visage hilar, tient serré contre son cœur un carton sale, des éponges pour la vaisselle. Deux adolescents plus avisés, complètement imprégnés de boue, ont trouvé des champignons en boîte, des ananas en conserve. Un adolescent porte sur ses épaules une caisse de ketchup.